Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Ça n'a rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
On bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas de moyen pour répliquer.
Eux, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
D'afficher la poubelle.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro, comme on disait avant, du Canu Info du jeudi, avec le retour du fils de la vengeance au micro vert, c'est-à-dire Laurent.
Bonsoir.
Bonsoir à toi. Nous allons vous parler de plein de choses ce soir. On commencera avec des histoires de médias, de répression, d'arrestation, de censure. Nous irons en Grèce, au Maroc et en Autriche. Nous partirons avec Laurent du côté d'Amazon. On parlera d'éducation. Amazon est-il... Où est-elle? Ça dépend si on parle que si c'est le groupe, la multinationale. Le futur maître, la future maîtresse, nous en discuterons avec Laurent. On parlera d'un rapport de l'OIT sur les conditions de travail des ouvriers et des ouvrières du CLIC. Nous parlerons petit facho ce soir et nous reviendrons évidemment avec Monsieur Campion, qui prend sa retraite. Nous parlerons de l'ANIA et puis d'autres petites infos sur l'industrie agroalimentaire. Nous parlerons énergie et environnement avec Laurent, on parlera d'une victoire avec les trains, on parlera d'abeilles aussi, de glyphosate. Et puis peut-être d'autres choses si on a le temps, voilà, mais j'annonce pas parce que je suis pas sûre que nous ayons le temps. La semaine dernière avec Jean-Yves, avec qui j'ai animé ce Canu Info du jeudi, nous avions entamé une question sur les migrants, comment faire pour non pas juste aider mais lutter contre les politiques fascisantes de tous bords. Et alors, l'air de rien, je vais redémarrer un peu avec ce sujet sur l'immigration, mais on va parler médias et de répression, et on va commencer avec la Grèce, où trois journaliste du quotidien grec, alors attention, il n'y a pas l'accent, Philelteros, ont été arrêtés et placés toute une nuit en détention. Alors qu'est-ce que ces trois journalistes avaient fait? Alors ils ont publié un papier le 21 septembre sur le camp de réfugiés de Moria, c'est sur l'île de Lesbos, vous savez, là où les réfugiés arrivent et puis attendent que leur demande d'asile soit étudiée. Et là, donc, vous avez des fonds de la communauté européenne qui sont versés à des ONG grecques sur place, qui accueillent ces migrants et ces réfugiés, qui ont des actes d'accompagnement, de solidarité. Bon. Et dans leur papier, les journalistes a accusé un petit peu le ministre de la Défense, M. Panos Kamenos, de détourner ces fonds européens. Hein, enfin, en tout cas, ce serait des proches de ce ministre de la Défense qui aurait profité d'une partie de ces fonds européens. Alors, ça a priori pas plu, puisque ce ministre de la Défense, M. Kamenos, a demandé leur mise en détention pour diffamation. Alors, en Grèce, quand il y a diffamation, c'est un truc important, c'est-à-dire que c'est un crime de flagrant délit, ce qui veut dire qu'il y a une détention qui est immédiate. Et là, les trois journalistes, donc l'éditeur du journal, Thanasis Mavridis, le directeur, donc Panagiotis Lampsias et Katerina Galanou, se sont présentés volontairement à la police suite à cette plainte pour diffamation, et donc ont passé la nuit du samedi 22 septembre en détention au poste de police d'Athènes. Alors, finalement, dimanche, le procureur a décidé de les libérer, d'ouvrir une enquête préliminaire sur un éventuel délit de dénonciation calomnieuse à l'encontre du ministre. C'est-à-dire que la chose s'est un petit peu retournée contre M. Kamenos, donc c'est plutôt une bonne chose. Malgré tout, en Grèce, aujourd'hui, quand des journalistes grecs ou étrangers tentent d'enquêter sur ce qui se passe sur les migrants, les réfugiés, en général, ils ont quelques soucis, dont ce genre-là, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont entremêlées un petit peu au niveau de la corruption, de les disparitions de fonds européens, tout un tas d'enquêtes qui sont menées, et on s'aperçoit qu'en général, les journalistes sont en difficulté. Alors, RESF a... Reporters sans frontières, je vais y arriver, a placé la Grèce 74e sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse de 2018, donc c'est quand même assez moyen, hein, il faut le dire, en termes quand même de liberté d'expression et de la presse. Alors maintenant, on va partir au Maroc, et puis on va toujours continuer à parler des migrants et des migrantes. Alors là, c'est Sébastien Sabiron, il travaille pour France Inter, et il est allé à Tanger pour réaliser un reportage sur la répression et le déplacement forcé de migrants subsahariens vers le sud du Maroc. Donc, une enquête plutôt assez importante et assez sérieuse, il faut le dire quand même. Et ça faisait 48 heures qu'il était à Tanger. Il était accompagné par sa fixeuse Asna Belmeki, excusez-moi. J'ai eu un doute sur son nom. Ils ont été interpellés... Ils ont été interpellés assez rapidement, en fait, hein, tous les deux, par un agent, et au bout de 48 heures, en fait, il a été expulsé. C'est-à-dire qu'on lui a demandé de partir, c'était la semaine dernière, vendredi dernier. Il a eu un agent qui est venu le menacer, qui a sorti son taser, qui les a emmenés au poste de police. Tous les deux ont été interrogés pendant 6 heures, et pourtant, ils n'étaient officiellement pas en état d'arrestation. Alors, si Sébastien Sabiron a été ramené à l'aéroport, mis dans un avion, enfin, on lui a demandé de prendre le premier avion en départ pour la France. Heureusement, Asna Belmeki, elle n'a pas eu de suite, hein, pour l'instant. En tout cas, on espère qu'elle n'aura pas de suite. Alors, son matériel d'enregistrement a été confisqué. Alors, normalement, du côté des autorités marocaines, on reproche à Sébastien Sabiron de ne pas avoir obtenu d'autorisation préalable de travailler. Sauf que le rapporte Sébastien Sabiron et puis Reporters sans frontières, les demandes d'autorisation de reportage, elles se font auprès du centre cinématographique marocain, et ça ne concerne que les équipes de télévision. C'est-à-dire que si tu es journaliste de presse écrite ou de France Inter, c'est-à-dire d'une radio, tu n'es pas obligé de demander une autorisation. Donc, en fait, les autorités marocaines mentent, puisqu'ils n'avaient pas besoin de cette autorisation. Donc, en fait, il s'est fait expulser parce qu'il enquête sur quelque chose qui semble gêner les autorités marocaines, c'est-à-dire qu'il y a des migrants et des migrantes qui sont forcés à se déplacer, qui ne sont pas pris en charge correctement. Et ça fait un petit moment, hein, qu'on soupçonne le Maroc de malmener, de maltraiter, voire plus que ça, une partie de ces migrants et de ces migrantes. Donc, voilà, le reportage aurait pu être intéressant. Et alors, il paraît qu'en plus, l'agent, au début, quand il a interpellé Sébastien Sabiron, il lui avait dit qu'il n'avait pas le droit de parler aux hommes et aux femmes qu'ils rencontraient parce qu'ils n'avaient pas de papier, qu'ils étaient clandestins. Voilà donc une bonne nouvelle. Il est interdit de donc parler à des gens qui n'ont pas de papier dans un pays. Et puis on va partir en Autriche. Alors, c'est avec l'Autriche, la virée extrême droite. Ah, on en avait parlé ici. Enfin, Laurent, vous en avez parlé, si je me souviens bien. C'est là le cabinet du ministre de l'Intérieur, qui est donc d'extrême droite, hein, Herbert Kitschki, je ne sais pas comment on dit en fait exactement son nom, qui a recommandé aux services de presse des directions régionales de la police de limiter au minimum légal la communication avec trois publications. Courier, qui est un truc plutôt du centre. Hein, voilà. Der Standard, qui est plutôt de centre-gauche. C'est pas moi qui dis ça, c'est Reporters sans frontières. Hein. Et puis Falter, qui est de gauche. Il paraît que c'est mieux quand même de limiter l'arrivée de ces publications, parce qu'elles paraît qu'elles sont de parti pris, qu'elles sont pas assez proches du ministre de l'Intérieur. Alors, il paraît qu'en fait, des propos n'ont pas été tenus par le ministre lui-même, mais par son porte-parole.
C'est excuse du coup, c'est ça.
C'est subtil, hein, quand même, ouais. La différence. Bon, ce qu'on sait en tout cas, c'est que le parti FPO, hein, le machin d'extrême droite, a l'habitude, hein, comme on connaît, hein, les extrêmes droites en France, hein, pareil, qui agressent les journalistes, les médias, donc c'est des menteurs, et puis parfois vont bien bien plus loin. Et là, c'est l'habitude, hein, de ce parti FPO s'en prendre aux journalistes d'une manière générale. Donc là, c'est quand même assez visé, c'est marrant, hein, cette idée quand même de censure. Alors, il paraît que le chancelier autrichien, M. Kurz, qui lui est dû au VP, vous savez, le parti qui est au gouvernement, mais grâce au FPO, enfin bon, tout ça est extrêmement lié, lui a dit que, oh là là, c'était très très mal de ne pas laisser la presse indépendante. Bon, on se demande du coup ce qu'il fait avec eux, IEL, au gouvernement. Reporters sans frontières a déclassé l'Autriche dans son classement, qui jusqu'à présent était plutôt bien classé.
Bien classé, ouais.
Ouais, ouais. Et ben là, ça a chuté, hein, il faut le dire. Donc, c'est pas prêt de s'arrêter, si on en lit un petit peu les recommandations de Reporters sans frontières.
Alors, on va parler un peu d'éducation maintenant, avec deux petites infos. La première qui date de quelques jours, en fait, ça a pas mal bougé et ça a pas mal commenté sur les réseaux commerciaux, notamment Twitter, puisque c'est en fait une enseignante, notamment, alors il y en a pas mal d'enseignants qui ont réagi, et notamment une enseignante référente pour les usages du numérique, puisqu'on va parler éducation nationale et numérique, puisque pas mal de critiques sont sorties. Alors, autour des évaluations nationales de CP et de CE1 que le gouvernement a mis en place, et la question qui se pose finalement avec ces évaluations. Alors, le contenu, il est pourri, je vais pas rentrer dans le contenu pédagogique, là c'est ridicule, mais bon, c'est pas le sujet. On va plutôt parler des données, de la protection des données de ces évaluations, puisqu'on a appris, et ça a été confirmé, que ces données sont stockées sur un serveur à Dublin. Bon, vous allez me dire, c'est pas très grave, c'est en Europe, tout ça. Bon, c'est quand même l'éducation nationale, c'est des données de 1,6 million d'élèves, bon, d'écoliers, tout ça, bon. Et en plus, que c'est Amazon qui gère ça. Et c'est juste la classe internationale, voilà. Le gouvernement délègue à une multinationale de gérer des informations concernant 1,6 million d'écoliers français. C'est quand même assez moche, on va le dire. Alors, ce qui est drôle, parce qu'il faut toujours qu'il y ait un petit truc drôle dans les informations, c'est qu'il y a quelque temps, la personne au ministère de l'Éducation nationale qui était chargée du numérique a été taclée un petit peu pour ses liens avec les GAFA. Bon, les GAFAM, vous savez, les GAFAM, c'est Google, Amazon, Facebook, machin, toute la clique, là. Et donc, ils l'ont mis de côté, ils l'ont fait partir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez Amazon. Et le ministre avait fait un grand discours, et je vais le citer, il a dit « Les partenariats que l'on veut développer avec les acteurs du numérique doivent se faire dans le strict respect des droits des données personnelles. Je ne transigerai jamais sur ce point. Le jeu, c'est Monsieur Jean-Michel Blanquer, le patron, le boss, le ministre de l'Éducation nationale, début juin. » Ensuite, il avait continué à dire, voilà, qu'il y aurait une protection jusqu'au bout des données des élèves. Vraisemblablement, c'était de la propagande, puisque au final, qu'est-ce qui se passe? Les données se retrouvent chez Amazon. C'est quand même moche, moche, moche. Alors, bien sûr, il a précisé, parce que comme c'est sorti le 22, donc il y a 5 jours, ils ont eu le temps de réagir, l'Éducation nationale. Ils ont dit, non mais vous inquiétez pas, les données sont anonymisées. Mais ça n'enlève pas le contenu des données que pourront un jour utiliser peut-être Amazon. On ne sait pas quel niveau de protection il y a. Donc c'est quand même un truc pas terrible, terrible. Alors il y a eu quelques réactions. Le SNUIPP, FSU, a bougé pas mal, a demandé aux enseignants de pas saisir les évaluations. Alors, lié au fait que ça soit sur Amazon et lié au fait qu'elles soient un peu pourraves, hein, ces évaluations, je rentre pas dans le détail du coup, j'ai pas les compétences. Mais donc voilà, et du coup ça pousse les inspecteurs à aller vérifier que les enseignants font, on va dire, leur boulot, en tout cas ce boulot pourri. D'autres syndicats ont réagi, il n'y a pas que le SNUIPP, il y a la CGT Éduc qui a réagi, la CNT aussi a réagi, le SNUDIFO qui est un gros syndicat aussi a réagi, SUDEDUC aussi a réagi, et pousse leurs différents adhérents et enseignants donc à ne pas remplir ces trucs, et à faire les évaluations parce que c'est plus compliqué si on les fait pas, mais à pas remplir chez Amazon. Donc voilà, petit mot pour dire que l'éducation ça part quand même pas mal en live, et que le gouvernement qui est en train de tout privatiser, tout libéraliser, est quelque part en train de vendre, de donner tout ça au privé, et là du coup c'est Amazon. Mais c'est pas tout sur l'éducation, puisqu'aujourd'hui c'était une journée de grève. On va me dire, on s'en est pas bien rendu compte. Oui, je suis d'accord, c'est un peu le truc Sarkozy, la grève on l'a pas vue. Et c'est un petit peu dommage, puisque c'était une grève lancée par une belle intersyndicale, pas tous les syndicats quand même, mais une belle intersyndicale, des lycées professionnels. Les lycées professionnels sont attaqués un peu partout par les différentes réformes, et notamment par la nouvelle réforme, qui va être mise en place en septembre prochain, de l'année prochaine. Donc voilà, les syndicats avaient appelé à se mobiliser, et vu les enjeux et vu les destructions qui sont en cours, on attendait une grosse mobilisation. Or, c'est un peu passé inaperçu de partout, dans les médias, et même dans la rue. Et alors, dans les lycées pro, c'est encore pire. Parce que vraisemblablement, peu de gens, peu de syndiqués ont relayé cet appel. On ne sait pas pourquoi. Moi, je me demande pourquoi il n'y a pas eu une mobilisation importante. Alors certes, il y a d'autres rendez-vous dans l'éducation. Il y en a un qui est appelé au 12 novembre. Il y a l'appel intersyndical de la CGT là, le 9 octobre. On se demande si tous ces trucs disparates perturbent pas les vrais combats, du coup, parce que celui-là, c'est un vrai combat. Alors, pourquoi c'est un vrai combat? Je vais vous expliquer un petit peu les choses. Donc, on vous rappelle que la voie professionnelle a pour but d'emmener les élèves vers le monde du travail. Des élèves qui sont en grande partie en échec scolaire, enfin, vous connaissez un petit peu le système un peu pervers de cette voie professionnelle, qui récupèrent pas forcément des élèves motivés par le métier qu'ils choisissent, mais qui vont là sous la contrainte parce qu'ils n'étaient pas assez bons pour aller en général. Malheureusement, cette idéologie, cet état de fait n'évolue pas beaucoup ces dernières années. Et il y a donc dans cette réforme pas mal de choses, notamment au niveau des pertes d'heures qui ont déjà été annoncées. Alors pour l'instant, c'est des grilles horaires provisoires, puisque ça doit être validé par le Conseil supérieur de l'éducation le 10 octobre prochain. Mais dans le nombre de pertes d'heures, on notera, je vais vous les citer, on passe par exemple à 267 heures annuelles de français histoire géo, alors qu'avant c'était 297, donc on en, les élèves en perdent 30. En maths, on passe de 181 à 140, en langue de 349 à 265. Enfin voilà, c'est un cassage général. Alors l'idée, c'est vraisemblablement de faire des économies de profs. Ça, on l'avait compris. Il y a la même chose d'ailleurs en lycée général et en lycée technologique. Il y a aussi l'idée du cassage du bac pro. C'est bizarre, hein, parce que alors si vous vous rappelez pas, il y a quelques années, avant la précédente réforme, le bac pro se faisait en 4 ans. Donc les élèves avaient 4 ans d'enseignement technique sur leur domaine professionnel. Il y avait 2 années de BEP, et les meilleurs élèves, enfin ceux qui avaient envie surtout, passaient et faisaient les 2 années de bac pro, donc 4 ans d'études. Le précédent gouvernement, ou celui d'avant encore, je ne me rappelle plus, avait réduit le bac pro à 4 ans, donc les élèves avaient perdu 1 an d'études. Ils n'en faisaient plus que 3, pour avoir soi-disant les mêmes compétences professionnelles derrière, parce qu'on est censé aller bosser avec un bac pro. Et bien là, le gouvernement va faire encore mieux que ça, il va transformer ce bac pro en 2 ans. Parce que la première année, la seconde, ça va être une sorte d'année découverte. Les élèves vont rentrer et vont regarder différents métiers. Alors, pas tous les métiers, bien évidemment, puisque actuellement, il doit y avoir au moins 80 sections. Ça va être réduit à 15 et ça va être un peu général. Il y aura un truc, par exemple, l'industrie, des choses comme ça. Et donc, ils vont regarder un peu ce qui se passe. Alors, ça part d'une bonne idée. C'est parce que c'est pas facile de connaître les métiers, donc les gamins, ça va leur permettre de choisir.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est voilà. Plutôt pas une mauvaise chose d'avoir le choix, non. Surtout dans un truc où on t'emmène bosser derrière, quoi.
Voilà. Le problème, c'est qu'il reste plus que 2 ans d'études.
Eh ouais.
Alors, c'est, allez, 2 ans d'études, et dans ces années-là, ils vont baisser aussi bien les heures d'enseignement général et scientifique, et aussi les heures d'enseignement professionnel. Donc à la fin, on va obtenir des lycéens qui vont sortir avec un bac pro qui n'a déjà plus aucune valeur depuis la réforme du passage de 4 ans à 3 ans. Hein. Mais bon, par contre, c'est bien dans les chiffres internationaux parce que ces élèves ont le bac Pour l'international, vu de l'étranger, c'est un bac. Et donc, c'est un niveau qui est bien. Il faut emmener 80% de la population à ce niveau-là, tout ça. Alors que si on n'avait pas dévalorisé les CAP, par exemple, pourquoi ce serait moins glorieux d'avoir un CAP? Notamment, il y a des métiers super classe en CAP, quand même, faut le dire. Mais non, c'est pas de ça dont il est question. Il y a une idéologie qu'il faut avoir le bac. Et du coup, les parents s'accrochent à ça et poussent leurs enfants. Et le système entraîne tout ça derrière. Donc voilà, on va arriver à ces gamins, ils vont être du coup moins performants dans leur domaine professionnel, et puis du coup dans la poursuite d'études, ça va pas être drôle derrière. Donc voilà, il y a un cassage en règle, hein, quand même, du système professionnel. Et du coup, moi j'avais espéré une mobilisation importante aujourd'hui, sauf que je l'ai vue nulle part, et je suis finalement assez triste de voir ces bacs professionnels qui ont une vraie réalité. Alors le ministre, il met en avant, c'est super bien, tout ça, c'est un lieu, alors je vais citer ces mots, c'est un levier de réussite, ou c'est un grand atout pour l'avenir du pays, sauf que quand on détruit cet atout, quand on détruit le contenu, à la fin il reste pas grand chose. Voilà. Donc une triste destruction du système, et en fait derrière tout ça, il y a la volonté du gouvernement de basculer. Alors au début, il voulait basculer toutes les filières professionnelles en apprentissage. Sauf qu'en fait, ça va être compliqué à faire. Du coup, ils essayent de basculer le maximum en apprentissage. Pourquoi ? Parce que l'apprentissage, c'est les patrons. C'est les patrons qui vont gérer. Alors si vous connaissez des gens en apprentissage, vous savez que ils apprennent rien sur le lieu de travail. Ils sont juste utilisés par le patronat pour un coût peu élevé, et ce sont du coup que des exécutants, et ils apprennent rien. Or, l'apprentissage, ils doivent apprendre autant sur le lieu de travail que les quelques moments qui passent, l'autre moitié du temps qui passe à l'école. Or, en fait, on sait très bien que malheureusement, ça fonctionne pas comme ça, et en tout cas pas pour tout le monde. Mais du coup, il y a cette volonté de passer en apprentissage, et ça coûte pas cher, l'apprentissage, puisque effectivement, au moins la moitié du temps qui est passé chez le patron. Donc voilà, il y a une vraie volonté de détruire l'enseignement professionnel, qui était déjà pas dans un très bel état, et ça continue, mais ça c'est le libéralisme en fait, qui est derrière tout ça.
Alors on va continuer, si tu veux bien, avec le numérique, et on va parler, excusez-moi, des ouvriers et des ouvrières du CLIC. C'est quoi les ouvriers et les ouvrières du CLIC? Alors c'est l'Organisation internationale du travail, l'OIT, qui dépend des Nations Unies, qui a publié pour la première fois une très importante étude sur ces travailleurs et ces travailleuses. Alors ce sont des hommes, des femmes, qui sont invisibles pour nous qui allons sur Internet, et qui vont nettoyer des bases de données, vont répondre à des questionnaires pour améliorer les services, modérer des contenus sur le web, cliquer sur des trucs, faire des recherches qui vont entraîner ce qu'on appelle les intelligences artificielles sur Internet. Alors ce sont des travailleurs, des travailleuses qui sont liés à des plateformes. Les deux plus importantes dans le monde, c'est Amazon Mechanical Turk and Cloneflower, qui détiennent pour ces deux boîtes 80% du marché, hein, pour ces plateformes. Alors elles font le lien, hein, les plateformes, c'est une plateforme entre des entreprises qui ont besoin, et ces travailleurs et ces travailleuses. Alors ce sont pour la plupart des personnes qui sont payées à l'acte, hein, c'est-à-dire je fais un clic, je suis payé. Donc on parle de centimes d'euros par exemple, hein, pour le marché français. Par contre, pour le marché des plateformes qui mettent à disposition des entreprises ces travailleurs et ces travailleuses, on parle en milliards de dollars d'ici 2020. Donc on parle de 15 à 25 milliards de dollars d'ici 2020. Donc c'est un secteur qui est en plein développement. Alors c'est quelque chose qui est partout dans le monde. Donc je vous le disais, avec des salariés, des travailleurs et des travailleuses, parce que c'est pas forcément des salariés d'ailleurs, qui sont donc payés à la tâche via les plateformes avec quelques centimes, hein, d'euros, mais vous pouvez faire pareil avec le dollar. Ça concernerait, selon une estimation, hein, de ce rapport, entre 45 et 90 millions de personnes réparties dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle comme travail le digital labor. Donc ça n'a encore jamais été étudié, hein, ce travail, parce que c'est vrai que c'est finalement assez récent, hein, c'est avec l'apparition d'Internet et puis de la masse de données à traiter, et dans l'apparition évidemment de ces GAFA. Alors c'est vrai que des fois on dit ah, il y a le robot de Twitter qui a bloqué une information. Bon, il faut savoir, derrière il y a des robots, mais il y a aussi beaucoup d'êtres humains qui font ce travail, qui nous peut pour l'instant pas être gérée par ces robots. Alors l'enquête, elle est très très importante. Elle a concerné 3500 travailleurs et travailleuses sur ces plateformes dans 75 pays entre 2015 et 2017. Donc c'est une enquête extrêmement importante et très sérieuse. Il faut pas le voilà, il faut quand même le dire. Et donc tout ça va nous révéler des choses qui sont pas très chouettes. Alors d'abord les tâches sont nommées comme répétitives et fastidieuses. On s'aperçoit que alors d'abord c'est compléter des questionnaires, parce que les questionnaires, ça permet de mettre à jour des services, d'améliorer. Vous, et en tant que consommateur, consommatrice, vous en recevez, mais ces petites mains, ces ouvriers et ouvrières du CLIC travaillent beaucoup sur ces questions-là. Ensuite, il y a la collecte de données qui arrive, et puis la modération des contenus. Parce qu'on pourrait croire que c'est la modération qui arrive en premier, mais non. Là, c'est, ça vient ensuite. Et ce qui est très intéressant dans cette étude de l'OIT, c'est qu'on s'aperçoit que c'est des tâches répétitives et fastidieuses, et bien pourtant, ça n'empêche pas les travailleurs et les travailleuses d'avoir des diplômes.
Oui.
Beaucoup ont des diplômes. Alors ça concerne souvent, la moyenne d'âge elle est autour de 27-28 ans selon les parties du monde qui sont concernées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire que comme les trucs téléphoniques, vous savez, ces gens, quand vous appelez, vous avez besoin d'un renseignement, d'un service, d'un dépannage, pourraient être situés dans des pays où le coût de la main d'œuvre est moins cher. Et bien là en fait c'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est aussi important dans les pays en voie de développement que dans les pays très développés comme en Europe ou aux États-Unis d'Amérique. Et ce que fait sortir cette étude, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses qui sont aux États-Unis d'Amérique et qui ont des diplômes et qui font ce travail-là. Donc déjà, ça casse un petit peu une image où on voudrait croire que les petites mains, les petits clics, comme dans le jeu vidéo, où on sait que ça est dans une partie du monde, en Inde par exemple, où vous savez, on fait jouer vos personnages pendant que vous dormez ou pendant que vous êtes occupé au travail, on paye ces gens. Bon, bah là non, en fait, ça touche tout le monde, et en particulier aux États-Unis d'Amérique, où on a des chômeurs et des étudiants qui font ce travail. Là. D'ailleurs, on remarquera que le CLIC est, comme je vous le disais, très très mal payé, et qu'on s'aperçoit que souvent, quand on va prendre le revenu de ces travailleurs et travailleuses, il va être en dessous de ce qui pourrait être un SMIC. C'est-à-dire que l'OIT a fait un petit peu un rapport du revenu minimum dans les pays où il y en a, et s'est aperçu que souvent, ces travailleurs et travailleuses gagnent très mal leur vie. Est-ce que surtout, ce sont des professionnels qui vont avoir une double activité? C'est-à-dire que ça va être souvent à côté d'un premier emploi. C'est pour ça que dans leur étude, on s'aperçoit que 43% des travailleuses travaillent la nuit. 68% travaillent entre 20h et 22h. Bah oui, parce que c'est en rentrant du boulot qu'on se met à cette deuxième activité, cette deuxième tâche qui n'est pas forcément très rentable, mais qui permet parfois de compléter un premier revenu qui lui-même n'est pas rentable. Donc ça donne des gens qui n'arrivent pas à en vivre quand c'est même une activité à temps plein, et puis sont obligés de cumuler avec un autre boulot ces activités. Voilà. Et puis même quand vous êtes étudiant, vous travaillez aussi le soir sur ces avec le lien de ces plateformes pour des entreprises internet ou de commerce qui sont sur internet. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire? Ah oui, que beaucoup de ce travail, il y a une partie qui n'est pas payée, c'est-à-dire que la plupart des travailleurs et des travailleuses ont expliqué que à 90%, ils ont répondu et elles ont répondu qu'elles n'avaient pas été payées pour une partie de leurs activités. C'est quand même incroyable. Et qu'il y a tout aussi le travail qui est à côté du CLIC qui n'est pas payé. C'est-à-dire que il faut se connecter à la plateforme, il faut aller chercher l'emploi, il faut lire les formulaires de recommandation, il faut comprendre ce qu'on vous demande. Tout ça, c'est du temps qui n'est pas payé, qui n'est pas pris en compte, évidemment, dans vos revenus. Enfin, évidemment, sans doute bien que les entreprises du numérique et d'Internet ne vous payent pas là-dessus. On s'aperçoit que dans un certain nombre de pays, en particulier dans les pays en voie de développement, ou les économies émergentes, comme on dit, il y a beaucoup plus de femmes, mais d'une manière générale, c'est vrai qu'on trouve aussi des femmes, même si elles sont moins présentes en Europe et puis aux États-Unis d'Amérique. C'est que il y a des endroits dans le monde où les femmes, elles vont garder les enfants, et donc du coup, c'est une activité annexe. Vous voyez, donc c'est donc un travail à domicile finalement assez pesant. Et puis il y a un dernier point moi qui m'a aussi marqué, c'est que beaucoup de ces travailleurs et travailleuses qui sont des modérateurs souffrent de syndrome de stress post-traumatique, puisque beaucoup des modérateurs et des modératrices sont amenés s'occuper d'images assez et de vidéos assez horribles, de propos aussi assez horribles. Alors évidemment, on va penser à la torture, aux violences sexuelles, à la pornographie infantile. Donc, des gens qui sont marqués, en fait, parce qu'ils sont censés enlever de nos yeux à nous. Et il n'y a aucun accompagnement là-dessus. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, vous avez peut-être un comité d'entreprise, quand c'est une grosse boîte, ou en tout cas, vous avez peut-être un supérieur, une supérieure, ou en tout cas un chef, une chef, ou des collègues avec qui peut-être vous entrez en contact. Là, vous êtes isolé à votre domicile, donc la plupart du temps, vous n'êtes même pas syndiqué, vous n'êtes rien, et vous n'avez aucun accompagnement sur les horreurs que vous êtes amené à enlever d'Internet. Et ça, c'est quelque chose qui est fortement en train d'apparaître. Dans son étude, l'OIT pointe en particulier YouTube, hein, qui a, entre octobre et décembre 2017, fait analyser par des êtres humains plus de 8 millions de vidéos, hein, qui ont été supprimées pour s'assurer qu'elles avaient bien violé les conditions d'utilisation de YouTube. Donc, je rappelle, c'est Google. Et ben là, il y a des gros problèmes. En plus de ça, les modérateurs et modératrices signent des clauses dans leur contrat de confidentialité sur ce qui est enlevé. Donc, ça les isole complètement. Et ça met des conditions de travail assez difficiles et qui fait qu'il y a des gens qui ont des gros problèmes psychologiques après avoir passé des heures à enlever tout ça. Voilà, reste que dans l'enquête, on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup de ceux et de celles qui ont été interrogés par cette étude, en tout cas par les gens qui ont fait cette étude, que beaucoup, 88%, aimeraient voir plus de micro-tâches pour avoir plus de revenus. Bah oui, on en revient toujours au pognon, hein. Au final, c'est pas forcément que ça soit bien éclatant comme boulot, mais c'est que les revenus ne sont pas importants. Donc l'OIT pointe en fait un secteur qui est en train de se morceler, de s'éparpiller, qui s'est créé et développé sans aucune contrainte ni cadre, avec des travailleurs et des travailleuses qui souffrent, qui sont mal payés, et que, au vu du marché, ça va ne faire que exploser, et que ça concerne l'intégralité des pays, et pas juste quelques pays en voie de développement ou avec des pauvres qui travaillent derrière. Voilà, donc c'était une étude qui est assez intéressante. On rappellera aussi que ces travailleurs et travailleuses n'ont pas d'assurance maladie, n'ont pas de retraite, enfin ne cotisent pas pour la retraite. Voilà, enfin... un métier difficile, ouvrier, ouvrière du clic, et tout ça pour que nous, on continue quand même à naviguer, et pour que les entreprises continuent évidemment à faire du pognon sur Internet.
Alors, je vais faire ma petite rubrique sur les fachos, et cette semaine, j'en ai trois, enfin, j'ai trois petites infos. Alors, j'ai été un peu large dans ma définition du facho, mais parce que ces gens ont des comportements se rapprochant de ce genre de choses, donc de liés à l'extrême droite. Et on va commencer par Marcel Campion. Marcel Campion, c'est un peu un gros connard. Vous le connaissez tous, grande gueule. Alors il s'est affiché
agressif,
méchant, escroc. Il a été condamné moult fois, proche du Front National. Hein, on a vu moult images avec des militants d'extrême droite. Et c'est surtout un forain. Alors il se qualifie du roi des comme le roi des forains. Il est roi de rien du tout. En tout cas, nous on est contre la monarchie, de toute façon, système totalitaire par excellence. Bon, bref, il a annoncé aujourd'hui qu'il cesserait toutes ses activités liées aux activités foraines. Donc c'est un communiqué qu'il a fait aujourd'hui. Waouh ! Donc moi j'ai applaudi, j'ai bu un coup à la santé, à la mienne d'ailleurs, pas à la sienne. Alors pourquoi tout ça ? Je vais revenir juste sur l'affaire très rapidement. Je vous rappelle la vidéo qui est sortie, publiée par le Journal du Dimanche. Une vidéo, et je vais citer les paroles que vous avez peut-être déjà entendues, mais il faut le redire. Monsieur Marcel Campion déclare dans cette vidéo : moi j'ai rien contre les homos, d'habitude je dis les PD. Mais on m'a dit hier qu'il fallait plus que je dise ça. Donc je ne dis plus les PD, je dis les homos. J'ai rien contre eux, sauf qu'ils sont un peu pervers. Donc amis homos, vous êtes pervers. Enfin, version monsieur, monsieur le Campion. Et puis il a continué en disant que tout Paris était gouverné par les homos. Et là, je me suis dit, putain, quand même, tout Paris par les homos. Il y a quand même beaucoup d'élus, beaucoup de gens qui prennent des décisions, tout ça. Ils sont tous homosexuels. C'est marrant, c'est un grand hasard, tout ça. Ça pourrait arriver un jour qu'il y ait plusieurs, par hasard, les gens élus soient majoritairement homosexuels. Mais ça paraît quand même un petit peu louche. Et puis finalement, quand on se rend compte que c'est bien évidemment totalement faux, puisque c'est un facho qui sort des conneries homophobes. Il a d'ailleurs même cité Bruno Julliard, l'ex-adjoint à la mairie de Paris, qu'il déteste a priori. J'ai bien senti comme ça, parce que homosexuel pour lui c'est quand même plutôt une insulte.
Alors que nous, c'est plutôt une insulte. Voilà, c'est une insulte.
Nous c'est plutôt un qualificatif ou
voilà. Un état de fait.
Un état de fait. Voilà. Mais pas une insulte. Et donc il a voilà. Bon bref, Bruno Julliard a déposé plainte. Normalement, SOS homophobie aussi. Il y a eu pas mal de réactions. Et comme ça a fait grand bruit, que ça n'a pas fait parler de lui, il a fait ce communiqué où officiellement il se retirait donc de tout tout son travail autour de la fête foraine. Il dit c'est pour protéger mes collègues forains et ma famille, enfin sa famille, hein, pas la mienne. Bon bref, ça me paraît logique. Je pense qu'il a, voilà, il a eu l'air ridicule. Il y a une affaire hein, sur le marché de Noël là qui l'avait gagné avec ses amis forains. Du coup, le marché ben, semble cassé. C'était aux Tuileries, je crois. J'en ai les Tuileries. Enfin bon, bref, ça remet tout en cause. Ça nous fait plaisir que voilà. Moi, je pense que c'est juste pour faire atténuer un petit peu la rumeur, que tout se calme et qu'il reviendra dans 6 mois. Mais il dit qu'il vendait sa célèbre grande roue, celle qui a été, parce que alors c'est quelqu'un qui respecte jamais la loi, bien évidemment, puisqu'il l'a placée pendant des années de manière illégale.
C'est un avec le soutien de la mairie de Paris. Hein,
oui. Oui, c'est un escroc, c'est tout ce qu'on veut, c'est un businessman, voilà. Mais bon, c'était pour revenir un petit peu sur cette affaire, parce que ça m'a fait plaisir. Moi, j'aime bien ces petits trucs comme
Du coup,
ça me fait plaisir qu'il ait pris un coup dans la gueule, en fait.
Ouais, et puis, moi, je trouve que ça rentre bien dans ta rubrique facho, parce que les homophobes sont les fachos. Et puis, il suffirait de... Moi, ça m'a fait penser à ces horreurs qu'on a pu entendre et qu'on continue à entendre sur les juifs, qui tiendraient les banques, la monnaie mondiale. Donc, c'est exactement les mêmes rapports que les homophobes ont...
La mairie de Paris.
Voilà, voilà. Donc non, ça va très bien dans ta rubrique, pas de souci.
Alors, deuxième info de la rubrique, c'est ce qui se passe en Méditerranée. Je vais revenir très très brièvement, ça va être très rapide, sur le bateau de SOS Méditerranée, donc qui a pu transférer les 58 rescapés. Sauvé en fait par le bateau et qui doit donc vers Malte hein, et qui doit faire route vers Marseille. Il a perdu son pavillon Panama suite à des pressions de l'Italie, bien que le Panama ne précise pas tout à fait sous cette forme-là, avec des accusations fallacieuses. Ce qu'on notera, ce que je voulais revenir, c'est sur la situation qui est en train de se passer en Méditerranée, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun navire d'ONG en Méditerranée pour secourir pas les migrants, en fait, les personnes qui sont en difficulté. Parce que ça concerne, bien sûr, ça peut concerner les gens qui partent d'un pays pour aller à un autre, mais ça peut concerner aussi le pêcheur, ça peut concerner plein de gens. Il y a toujours des gens en détresse dans la mer, hein. Ça peut arriver, malheureusement. Et du coup, plus personne peut être aujourd'hui aidé. Et ça va encore plus loin, puisqu'on a appris, toujours par des humanitaires, que les bateaux de navigation classique sur la Méditerranée, quand ils avaient des appels, même des appels, l'alerte maximum qui s'appelle le relais Mayday, eh ben, en fait, ils entendent les appels, eh ben, ils détournent leur route pour pas aller secourir les gens. Même quand c'est un navire normal qui est en difficulté. Donc la fameuse solidarité qu'il y avait chez les marins, elle est en train de disparaître par l'action de tous ces fachos là qui sont contre la libre circulation finalement des personnes sur la planète. Donc là c'est plutôt une mauvaise nouvelle, puisque pour l'instant, comme il n'y a plus de bateaux qui fait du sauvetage, quasiment plus, et plus de bateaux d'ONG, on peut dire que les fachos pour l'instant ont gagné les esprits, hein, on le voit dans toute l'Europe, et ont gagné pour l'instant la bataille de la Méditerranée, mais ce n'est qu'une bataille, et la guerre pour le droit de circuler n'est pas encore perdue. Et puis je vais terminer par un autre petit, alors je l'ai mis dans les fachos aussi, j'ai hésité, mais je me suis dit, un mec qui tape sur des manifestants avec l'aide de la police,
Même sans l'aide de la police, il s'est bien débrouillé tout seul.
Mais sous le soutien de la police.
Enfin, en tout cas, sous le regard de la police. Voilà.
Et puis bon, il travaille dans la sécurité, ce qui est, il n'est pas là pour la liberté des gens, ni pour la démocratie. On va juste reparler. Alors, c'est pareil, c'est l'info qui fait plaisir. Alexandre Benalla, vous savez, le mec là qui a tabassé, qui est pote avec Macron, qui a été soutenu, protégé en tant que délinquant par Monsieur Colomb, par Monsieur Macron. Il vient de perdre son avocat.
Et bon, ça fait causer plein de gens, cette affaire.
Donc c'est Monsieur Laurent Franck Liénard qui a dit « Je lui cède beaucoup de courage pour affronter la suite sur Facebook. Il n'y a pas eu d'autre chose. Hein, » et il lâche l'affaire. Alors on ne sait pas pourquoi, il y a peut-être d'autres raisons, mais à la rigueur, on s'en fout. Ça nous fait juste marrer que Monsieur Benalla, il ait perdu son avocat, il va en trouver un autre. Hein, on n'a pas de souci, puisqu'il a, avec ses amis Macron et toute la bande, ils lui trouveront un avocat. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des gens qui lâchent l'affaire aussi. Je sais pas quelle est la raison, mais ça m'a fait plaisir.
Il y en a qui sous-entendraient que c'est à cause du selfie avec l'arme qui aurait définitivement amené l'avocat à se dire que mince, il avait fait quand même beaucoup de propos, hein, cet avocat, pour dire que M. Benalla était...
C'est le rôle d'un avocat, du coup, mais...
Oui.
Mais là, quand même, il a dû se dire, non, mais en fait, il est coupable de tout, et je me barre.
Oui, alors ça, bon, voilà.
Bon,
mais
c'est
voilà.
Ce qu'on
imagine. Sait pas, mais oui, du coup, ça lui demande de trouver effectivement un nouveau partenaire pour le défendre.
Voilà, c'était ma petite info drôle.
Alors on va passer à toute autre chose maintenant. Vous avez peut-être entendu parler d'un nouveau rapport sorti par des parlementaires. C'est une commission d'enquête présidée par le député de la France insoumise, monsieur Loïc Prud'homme. C'est un rapport qui a été présenté hier mercredi, un rapport sur l'alimentation industrielle. Et donc il y a quelques propositions dans ce document que je vais très rapidement vous rappeler. Alors il y aurait l'idée par exemple de rendre obligatoire le logo Nutri-Score. Vous savez, c'est le machin à couleur qui avait fait grand débat, grande discussion, tout ça pour n'arriver à rien puisqu'il n'est pas obligatoire. Hein? Donc, bon, le rendre obligatoire, ça serait facile. Appliquer, hein? Hop, on oblige, hop, une petite loi.
Et c'est fait.
Hop, c'est fait. Bon, pour l'instant, c'est tellement basé sur le volontariat que, ben.
On le voit pas.
Hein, ça, mais ça.
On l'a jamais vu sur aucun produit, nous.
Mais alors, en même temps, je sais pas, peut-être que tu n'achètes peut-être pas assez de produits transformés.
Ah bah en fait, j'en achète presque pas, tu vois.
Voilà, bah c'est ton problème, en fait. Ouais. Mais voilà, si vous êtes chez vous, regardez un petit peu. Je sais pas si vous avez des enfants, vous achetez peut-être des paquets de gâteaux, un peu des choses comme ça, parce que c'est quand même le truc qu'on donne à nos enfants. Ouais. Bah regardez un petit peu sur les marques, qui les aimait, qui les aimait pas. Alors après, vous trouverez les marques, hein, on en avait discuté il y a longtemps, hein, les marques qui ont inventé leur propre le logo. voilà, enfin bon. Donc voilà, bon, sur les qualités nutritionnelles. Donc bon, tout ça, voilà, c'est facile à mettre en place. Un autre truc, c'est de limiter la teneur en sucre, en sel et en acide gras. Bon, on se dit que c'est pareil, une petite loi, et puis hop, ça pourrait peut-être passer. Là, l'idée, c'est de réduire en particulier dans les produits de panification le sel, parce qu'en France, c'est un pays où le pain est très très salé par rapport aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui recommande 5 grammes de sel par jour, et a priori, là, il y a 18 grammes par kilo de farine en France. Donc, l'idée, ce serait de réduire le sel. A priori, c'est pas si compliqué que ça. Ça pourrait se faire, voilà. Y aurait aussi alors là c'est plus compliqué, c'est pas gagné. L'idée de diminuer le nombre d'additifs autorisés. Alors en France aujourd'hui, il y en a beaucoup.
Ouais, ça va pas loin parce qu'en fait on pourrait interdire les additifs tout simplement. Parce que si vous allez vous regarder dans tout ce qui est fait en produits industriels bio. Hein, je parle de l'industriel bio, il n'y a pas d'additifs, alors, ils font les mêmes produits. Alors
un additif,
très peu, en fait.
Ça peut rentrer en fait, dans le bio, mais c'est ceux-là que le rapport recommande de conserver. C'est-à-dire qu'il y a 338 additifs autorisés en France, et l'idée, d'après ce rapport, hein, ça serait de conserver simplement ceux qui sont utilisés dans l'alimentation biologique.
Voilà, qui sont donc normalement, a priori, jusqu'à preuve du contraire, dirons-nous, inoffensifs. Et bah, c'est pareil, ça coûte pas cher. Rappelle hein, quand même que l'industrie des produits transformés, au début, ils utilisaient que des produits clean. Hein. C'est petit à petit que, pour des raisons d'économie, etc., ont utilisé ces additifs avec les dangers qu'on connaît voilà, sur le court, le moyen ou le long terme. Alors, donc ils peuvent revenir à ce qu'ils faisaient au tout début quand ils ont commencé à fabriquer des gâteaux, des machins comme ça.
Ça c'était les propositions plus nutritionnelles, le contenu. Et puis il y a d'autres propositions comme améliorer la qualité des repas dans les écoles, en milieu hospitalier et maisons de retraite.
Oui, c'est pas gagné.
Ah non, là c'est plus compliqué, pourquoi ? Parce que l'agroalimentaire et l'industrie est déjà rentré largement dans certaines écoles, le milieu hospitalier et les maisons de retraite, et que pour faire marche arrière, il faudrait donner un grand coup de balai, remettre des vraies cantines avec des restaurants faits sur place dans les écoles, pareil hein, dans
fait sur place, en fait,
hein. Les maisons de retraite et dans les hôpitaux, sur du fait sur place, du frais, voilà. Donc ça c'est dans les débats, hein. Ça c'est une proposition qui ne sort pas nulle part non plus. Hein.
Non, mais enfin, il y a 40 ans dans les cantines, c'était quand même pas mal fait comme ça. Hein. Donc c'était pareil, si c'était jouable autrefois, ça, il n'y a pas de raison que ça soit pas jouable aujourd'hui. C'est juste un choix idéologique, un choix commercial, un choix financier, un choix de tout ce
que
vous voulez.
Dans le rapport, il y aurait aussi l'idée que les parents d'élèves soient participent en fait au choix des menus, soient vraiment moteurs dans des commissions de menus, vous voyez, de décisions pour l'alimentation de leurs enfants. C'est pas bête, hein, voilà. Qu'il y aurait aussi de renforcer la formation des cuisiniers dans la restauration collective, tout ça, bon, très bien, ok. C'est très dans les débats du jour, voilà. Ensuite, il y aurait l'idée de verser une allocation pour les plus démunis à travers des coupons. Alors là, évidemment, au lieu de se battre contre la pauvreté, on va le donner du coupon. Ouais. Moi, ça me laisse un peu sceptique, mais faisons dans l'urgence, donnons des coupons. Hein. Donc ça, c'est un autre des points avancés. Et puis, un des points avancés, ce serait de créer un secrétariat général à l'alimentation pour encadrer et suivre l'application de nouvelles mesures, et en particulier de toutes celles qui sont énoncées dans ce rapport. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, moi, je me suis dit, et là, ils en pensent quoi ?
Oui, bien, d'abord, c'est un rapport qui va faire, mais rien va passer en loi,
alors,
en fait.
Alors, je vais y venir tout de suite, puisque tu abordes tout de suite la question. Ça va aller nulle part, ce rapport. Oui, moi, j'en suis absolument persuadée. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, c'est le premier employeur de l'industrie. Parce que l'industrie, on pense toujours bagnole, métallurgie. Mmh. Sauf que l'industrie agroalimentaire, c'est une industrie en France très florissante, dans bien des secteurs, et que c'est l'industrie qui emploie en France, bien avant les bagnoles et bien tous les autres, qui perdent à chaque fois des travailleurs et des travailleuses. Donc, c'est 578 000 salariés dans les TPE et les PME, avec à côté toutes les multinationales de l'agroalimentaire, qui ne cessent de progresser par rapport à la métallurgie, par rapport à la bagnole, par rapport à tout ça, ou l'industrie. Voilà. Alors évidemment, il y a encore l'industrie chimique dont je parle même pas, mais c'est donc ça va être compliqué de faire appliquer tout ça alors que c'est les gros employeurs français.
Et que tu veux dire qu'ils ont des moyens de pression?
Alors déjà, il y a des lobbyistes énormes en Europe, en France.
Et puis au gouvernement, c'est leurs amis.
Et c'est leurs amis. On a des gens qui sont des employeurs, donc ça va être difficile de leur mettre des bâtons dans les roues. Hein, ça, c'est une certitude. Donc, pour moi, évidemment, je pense que c'est un des arguments qui fait que tout ça ne va pas passer, au-delà du lobbyisme et tout ça. Alors, du coup, comme je disais, je suis allée voir ce que pensait l'ANIA. Hein. L'ANIA, vous savez, c'est le syndicat...
En fait, c'est le lobby, du coup, de l'industrie.
Oui, c'est les syndicats professionnels de l'industrie
agroalimentaire.
Alors, je vais aller chercher tout de suite ce truc qui a été posté donc hier sur le site internet de l'ANIA, qui s'appelle « L'ANIA prend acte des propositions du rapport de la commission d'enquête sur l'alimentation industrielle ». Déjà, prend acte. Hein, on sent le dernier, voilà.
Elle constate que le rapport existe.
Alors, il y a une première phrase dont je vais vous... On s'en fout. Deuxième phrase. L'ANIA s'étonne de la tonalité globale de ces propositions qui font le procès des industries agroalimentaires, sans prise en compte de tous les efforts actés depuis plus de 10 ans et des engagements volontaires pris par les entreprises qui n'ont pas attendu ces propositions pour agir.
Ah bon ? Il parle de quoi, là ?
Les efforts actés depuis plus de 10 ans, ouais. L'engagement volontaire, des termes quand même, voilà. C'est écrit « Depuis plus de 10 ans, on rabâche, les entreprises alimentaires travaillent pour améliorer leur offre et proposer une alimentation toujours plus saine, sûre, durable. D'importants efforts ont été menés pour réduire les teneurs en sel, moins 20% en global, en sucre, moins 30%, en matière grasse. » Là, bizarrement, il n'y a pas de pourcentage. « Quand cela est pertinent. »
Ah, mais c'est le quand tout est dans le plan, cela est pertinent.
Est pertinent, trois petits points. Ah, bah oui, il faut toujours aller au bout de la phrase. On nous dit plus loin, parce que les consommateurs attendent plus de naturalité, nous simplifions nos recettes avec des listes d'ingrédients plus courtes.
Naturalité.
Oui, suppression d'additifs alimentaires non indispensables. Utilisation d'arômes naturels, trois petits points. Voilà, voilà. C'est marrant. Et alors, il y a une phrase qui nous dit, là je crois qu'on continue de venir. L'ANIA salue certaines propositions qui vont dans le bon sens. Nous soutenons ainsi les actions... Vous avez compris, le bon sens. Les autres, elles ne vont pas dans le bon sens. Nous soutenons ainsi les actions visant à renforcer l'éducation à l'alimentation dès le plus jeune âge, ainsi que celles proposées pour améliorer la qualité des repas servis en restauration collective, en particulier les écoles et les hôpitaux. Oh, ils ont la main sur le cœur, ouais. Alania.
Voilà. Ils se sentent moins concernés, du coup ils disent on peut faire ça, ça fera chier les autres, mais pas nous.
Oui, alors c'est Richard Girardot, le président de l'ANIA, qui a fait un texte et qui dit on assiste à un procès en règle de l'alimentation industrielle. Bah oui.
Et en fait non, parce que il oublie que dans les produits transformés, il y a tous les produits bio qui sont moins transformés, et justement c'est ceux-là qui sont un peu mis en avant dans le rapport. Donc en fait, pour lui, un produit industriel, c'est un produit dégueulasse, donc non bio, non local, avec plein d'additifs potentiellement dangereux. Or, en fait, non, il y a malheureusement, maintenant, on peut le dire, quand même, une industrie du bio. Mais alors, du coup, ils sont à des millions d'années-lumière de ces gens-là, quand même. Donc, ils ne représentent même pas toute l'industrie, en fait. Ils ne représentent que l'industrie pourrie. Ils décident de défendre l'industrie pourrie et pas l'industrie à peu près défendable.
Nous sommes des transformateurs, c'est notre métier, notre passion. Absolument. Richard Girardot, président de l'ANIA. Voilà, je vous laisse aller lire ça sur leur site internet si vous en avez envie. Et alors, je pourrais juste dire que par exemple, Fleury Michon a quitté sa fédération qui s'appelle la Fédération des industries charcutières, traiteurs et transformatrices parce que Fleury Michon reproche à la filière de ne pas suffisamment soutenir la montée en gamme, c'est-à-dire de la charcuterie. Fleury Michon, c'est le leader du jambon en France. Parce qu'il veut Fleury Michon veut baisser le sel, par exemple, dans sa charcuterie, veut rendre qualitatif la charcuterie en France, parce qu'en fait...
Il change de créneau. choses.
Bah ouais, mais c'est parce qu'il y a des pertes de marché en fait. Il y a 4% de baisse chaque année.
Ça
donc
baisse, la
l'idée c'est de monter en gamme parce que faut dire qu'on nous a vendu tellement
du
caca
bon.
Que forcément là on a une entreprise qui veut en même temps montrer sa bonne participation à l'effort de guerre pour nous faire manger des trucs meilleurs. Donc voilà, c'est marrant parce que Flumier Ichon s'est fâché avec le reste de la fédération. En même temps, c'est le leader qui va très bien financièrement, donc il peut tout à fait faire ça. Puis juste pour finir de rigoler, il y a la filiale bio de Danone qui s'appelle les Prix Rion de Bio qui a décidé de rentrer dans les réseaux spécialisés du bio avec ces yaourts. Vous savez, ils ont déjà les deux vaches, hein, les Prix les Prairies Bio. Où il y a le petit jeu de mots. Ça va s'appeler Faire Bien. Alors là, si t'as pas compris que t'es censé manger un truc bon, c'est que vraiment t'es nul. Là, franchement, je pense que le marketing, il faut arrêter avec les bêtises. Et juste, je vais finir en disant qu'il y a une grosse grève hein, toujours à Maïminova, qu'il y a les salariés de Novandi, c'est la propriété du groupe Andros, qui sont à Marrom, c'est dans Seine-Maritime, qui sont toujours mobilisés parce que, alors pas tous les jours en grève, en tout cas qui sont mobilisés parce que normalement il y a 116 suppressions de postes sur les 191 du site. Voilà, il y a des appels à soutien, à pétition, il y a tout ça. Voilà, Maïminova, c'était quoi le slogan? Merci qui? Merci Maïminova de prendre la porte.
Donc on va parler un peu d'énergie environnement et du coup on va rester un peu dans ce genre de choses.
Et oui.
Avec la bonne nouvelle du jour, c'est un petit collectif hein, qui s'appelle Oui au train de nuit, qui s'était pas mal mobilisé et qui vient d'avoir confirmation de la part d'Elisabeth Borne, la ministre des Transports, que la convention actuelle entre l'État et la SNCF, qui doit s'arrêter en 2020, serait reconduite. Convention sur les trains de nuit. On rappelle, il n'en reste plus que deux lignes. Avant, il y en avait plein. Il y a un potentiel énorme de trains de nuit. C'est des trains qui circulent moins vite, où on peut dormir dedans, et ça coûte moins cher, et du coup, ça évite les gens sur les routes et dans les avions. Et la SNCF et l'État ont essayé de détruire hein, ce système-là qui existe encore pas mal dans certains pays, certes de moins en moins aussi parce que c'est attaqué de partout. Et donc ils ont gagné, ils ont fait une pétition, un peu plus de 61 000 personnes avaient signé la pétition. Et là bon, ils ont de nouvelles perspectives parce que ce gain, le fait que Elisabeth Borne ait dit oui, on a re-signé une convention, c'est-à-dire que maintenant ils vont pouvoir aller plus loin, c'est-à-dire ils ont sauvé les deux dernières qui restaient, il faut maintenant inciter pour qu'il y en ait d'autres, qu'il y en ait plus et qu'on redéveloppe le transport ferroviaire en alternative au transport routier. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Tu parlais de l'ANIA, ils ont un lobby équivalent qui s'appelle Business Europe, alors qui est pas sur l'agroalimentaire mais plutôt sur l'industrie en général. Et alors on a appris plein d'infos qui sont sorties dans différents médias. Au départ, je sais plus quel média avait révélé. Ensuite, c'était le Canard Enchaîné qui a refait un petit truc hier dessus. Business Europe, c'est donc un lobby et qui est dirigé par Pierre Gattaz. Putain, il avait disparu, Pierre Gattaz. On savait pas où il était. On sentait bien qu'il allait pas, qu'il était pas devenu de gauche et qu'il allait pas aider la planète, les salariés, tout ça. Non, ça reste un patron. Et comme tout patron, finalement, en tout cas, c'est la majorité, puisque c'est le plus gros lobby, hein, Business Europe. Il est contre, il est pour la destruction de la planète. Donc, ils ont fait tout un tas de recommandations et c'est ces recommandations qui sont sorties dans la presse et qui sont à l'image de ce que fait toujours le patronat dans sa globalité. Donc ils disent au sujet du réchauffement climatique et des dérèglements, tout ça, dès que c'est des discours un peu généraux, il faut faire des communiqués en disant oui, on est d'accord, oui, il faut sauver la planète, oui. Et dès qu'il y a des mesures qui sont mises en œuvre, il faut rappeler les conséquences négatives pour empêcher ces mesures d'être mises en œuvre. Donc il y a tout plein de règles éditées comme ça par Business Europe et donc sous Pierre Gattaz. Et ben ça fait tâche hein, parce que les entreprises font croire qu'elles vont lutter contre la déforestation, lutter contre le réchauffement climatique, les dérèglements climatiques, tout ça. Et en fait, on sait très bien que elles en sont en grande partie responsables avec leurs clients, bien évidemment, mais c'est une responsabilité partagée. Et là, au moins, ça sort au grand jour parce que elles mentent, elles font semblant en permanence. Là, c'est sorti. Et ce qui est drôle, c'est suite à ça. Le The Guardian, un quotidien britannique, a posé la question aux adhérents de Business France comme EDF ou Engie, qu'on connaît bien chez nous, Google, Facebook, Microsoft, qui ont tous un discours verdoyant et qui sont dans un lobby qui lutte contre tout ce qui peut être mis en place pour sauver la planète. Et ben, alors d'abord, elles n'ont pas répondu, et puis aucune ne s'est retirée de Business Europe. C'est-à-dire qu'ils sont bien d'accord avec ce qui est fait, sauf qu'il faut pas le dire. Voilà. Donc, vous avez tout compris. vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein, on le savait déjà. Et ma dernière petite info environnementale.
Juste avant, tu parlais de Monsieur Gattaz. Je pourrais juste donner des nouvelles de. Mais qu'es-tu devenue de Madame Laurence Parisot ?
Ouais, elle aussi ancienne patronne des patrons.
Et voilà, c'est pour ça que j'en parle, c'est parce qu'en fait, on a appris aujourd'hui ou hier qu'elle était devenue banquière. Bon, non, je raccourcis. Elle est devenue la patronne de City France. C'est un truc avec des banques, des machins, du pognon et tout ça. Et voilà, ils se recasent tous hein, finalement assez facilement dans des secteurs où on les attend. Oui, sans surprise.
Sans surprise. Oui, alors c'est une petite info qui est sortie sur une étude de l'université du Texas, enfin à Austin très exactement, qui parle du glyphosate. Alors le glyphosate, vous connaissez, hein, c'est le produit phare que La République En Marche aime manger tous les jours, parce qu'ils ont refusé plusieurs fois de l'inscrire dans la loi, l'inscrire l'interdiction dans la loi, qui est défendue par beaucoup de gens, par l'extrême droite notamment, pas mal, par les agriculteurs productivistes et pollueurs. Qui est un herbicide qui tue donc les plantes, normalement les plantes, et qui est toxique, suspecté d'être cancérigène pour l'être humain, etc. Et là, cette étude, elle s'est intéressée au comportement des abeilles face au glyphosate. Jusqu'à maintenant, on s'était pas posé de questions parce qu'on s'est dit, le glyphosate, c'est un truc qui attaque les plantes. Donc pourquoi il y aurait un impact sur les abeilles? Vous me direz, il y a un impact sur l'être humain. Bon, alors c'est une étude réalisée par au nom de 3 chercheurs, parce qu'il y a souvent d'autres gens derrière, des petites mains qui travaillent dans la recherche. Il n'y a pas que les têtes de gondole. Donc c'est Eric Mota, Kazi Rehman et Nancy Moran, donc les signataires de l'article de l'université du Texas. qui ont exposé donc des abeilles à l'herbicide ultra connu de Monsanto, enfin de Bayer maintenant. Et ils ont remarqué qu'en fait, ça attaquait le microbiote intestinal. Vous savez, tout cet ensemble de micro-organismes qu'on a dans le tube digestif et qui ont un rôle ultra important. Ils ont regardé, c'est 50% en fait des bactéries présentes dans ce microbiote qui sont impactées, abîmées, voire détruites par le glyphosate. Conséquence pour les abeilles, eh ben elles sont plus sensibles, plus malades, que si elle n'était pas mise en contact avec le glyphosate. Alors faut savoir. Donc ça s'appelle, vous savez, ce syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles. On a accusé beaucoup et à juste titre les néonicotinoïdes, dont une partie sont maintenant interdits. Et le glyphosate, c'est une nouvelle substance qui semble participer aussi à cet effondrement des colonies d'abeilles. Et c'est un peu la même chose que les néonicotinoïdes, c'est que ça affaiblit l'abeille, ça la tue pas, ça l'affaiblit. Et dès qu'elle est confrontée à un virus, à une autre bactérie, enfin des trucs pas sympas, du coup elle meurt beaucoup plus, voire elle meurt tout court, hein, d'ailleurs. Donc c'est un truc important. Alors ça, c'est encore un truc à charge sur le glyphosate. Ce qu'on notera quand même, c'est que les fabricants de glyphosate auraient pu tester sur les abeilles. Ils l'ont jamais fait. D'ailleurs, ces chercheurs qui l'ont fait, Monsanto aurait pu le faire avant, ou aujourd'hui Bayer. Ils le font jamais. Et en fait, c'est ce qu'on sait déjà, hein, c'est que ces gens-là, ils mettent en vente des produits qui sont potentiellement dangereux, qu'ils n'ont quasiment testé dans aucune des vraies conditions d'utilisation ou de contact des êtres vivants. Voilà. Donc ni les êtres humains, ni les petits insectes, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'était un effet négatif supplémentaire du glyphosate, ce qui ne fera rien changer sur les élus de La République En Marche, hein, qui sont des adorateurs du glyphosate. Ils ont promis d'interdire d'ici 3 ans, ils avaient dit, donc maintenant 2 ans, on n'y croit pas du tout, hein, bien évidemment. Si c'est de toute façon pour le remplacer par d'autres produits toxiques dont on ne connaît pas la toxicité, parce que comme je l'ai dit avant, les industriels ne testent pas réellement la toxicité de leurs produits, on aura le même problème dans les années dans les années à venir avec les nouveaux produits mis en œuvre. Il faut sortir de tout ça, et comme le dit l'appel de Nicolino et d'autres, nous voulons des coquelicots. Et oui, quand on aura revu des coquelicots dans les champs, ça veut dire qu'ils auront supprimé tous les produits pourris qui tuent les indésirables. Alors les agriculteurs appellent ça des mauvaises herbes, mais on appelle ça des indésirables quand on respecte un petit peu la nature. Et dans ces indésirables, il y a le coquelicot, ces jolies fleurs rouges. C'est à toi.
Alors, je vais juste terminer sur Ryanair. Ouais, si, je vais terminer là-dessus.
C'est ton choix.
C'est mon choix, effectivement. C'est bien, vous avez vu, on est à peu près autonome dans ce canu info du jeudi, c'est bien. Hein. Alors, oui, Ryanair, nouvelle grève demain. Hein. Wouh! bravo. Alors, grève du personnel navigant d'Espagne, de Belgique, des Pays-Bas, du Portugal et d'Italie. Les pilotes allemands se joignent à la chose. Alors, 150 vols annoncés comme annulés demain.
C'est pas mal.
Alors, tu vas me dire, sur 2400 vols prévus, c'est pas tant que ça.
Bon. Ça fait moins de 10%, oui.
Ouais.
Même.
Attends, oui, ah oui, moins ça 10%. Fait moins de 10%, oui, ça, ah oui. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, mardi, Ryanair avait annoncé 190 vols, et puis finalement, on est arrivé à 150. Je me demande si le truc, c'était pas juste de dire, justement, bah, regardez, ils sont pas si
nombreux. Il y en a moins que prévu.
Voilà.
Ouais.
Mardi, quand même, 190 vols supprimés, ça impactait, comme on dit, 30 000 clients.
C'est quand même beaucoup.
Donc, ça reste beaucoup. Même à 150 vols, tu impactes beaucoup de consommateurs et de consommatrices. On rappellera que ça fait des mois que toutes ces grèves durent. Donc oui, il y a un moment, bah forcément, la lutte, elle s'épuise aussi un petit peu. Et puis, ça reste quand même pas mal hein, de vol, quand même, il faut le dire, pour Ryanair. Alors, monsieur O'Reilly, le patron de Ryanair, n'est pas content. Il a dit qu'il fallait annuler la grève. Hein. Non, parce que, bon, on accepte de négocier, il y a quand même une grève. A-t-il expliqué ?
Oui, ben, on va lui expliquer que tant que les négociations aboutissent pas, hein, ils ont le droit de faire pression, alors, les salariés.
C'est surtout que bon, Ryanair n'est pas connu pour engager les négociations.
Des vrais.
Même
des fausses, d'ailleurs.
Même des fausses. Hein, donc c'est marrant parce que pendant des décennies, Ryanair ne veut pas discuter. Et là, d'un seul coup, il accuse les salariés en grève d'être des vilains parce qu'il y aurait une possibilité peut-être de négocier. Et qu'ils se mettent en grève, les vilains et les vilaines. Bon, vous avez raconté, hein, en fait, c'est que, a priori, du côté de monsieur O'Reilly, on estime que ça vaut pas le coup. Alors d'ailleurs, en Allemagne, il avait menacé il y a pas très longtemps de fermer des choses si jamais les travailleurs et les travailleuses ne cessaient pas tout de suite, immédiatement, la grève. Et ben là, maintenant, ils sont prêts aux aéroports belges. Hein, alors Bruxelles, Charleroi pourraient voir leur flotte diminuer si jamais les grévistes étaient toujours là. Parce que c'est très très mal quand même. Donc, bon, c'est marrant hein, tout ça. Alors, quand on aperçoit quand même qu'il y a quelques endroits où finalement Ryanair accepte de négocier, a même signé hein, des accords pour tenter d'éteindre les protestations, reste que ben il y a un mouvement qui est européen et ça Ryanair je crois qu'il ne s'y attendait pas que ça parte avec une lutte internationaliste, hein, c'est-à-dire la main dans la main un petit peu avec de partout en Europe. Alors donc bon, demain nouvelle grève, on va pas revenir sur cette affaire. Ce qui est marrant, c'est que la commissaire européenne pour l'emploi et les affaires sociales, madame Thyssen, a rencontré le patron de Ryanair, c'était hier à Bruxelles, et lui a demandé de bien vouloir respecter les règles de l'Union européenne, c'est-à-dire que c'est pas le pavillon de l'avion qui détermine la loi applicable pour les contrats et tout ça, mais c'est bien l'endroit où les travailleurs et les travailleuses partent le matin et reviennent le soir. Et oui, Ryanair a toujours utilisé le pavillon irlandais de ses avions pour engager, payer et gérer son personnel. Et c'est bien ça le problème. Hein. Aujourd'hui, ça reste le problème. Donc c'est marrant parce que d'un seul coup, on a une commissaire européenne qui vient taper sur les doigts de monsieur O'Reilly. Bon, elle tape pas bien fort. Alors, on apprend à côté de ça que Ryanair va... Ah, on a appris ça aujourd'hui. Hein, avec deux communiqués. Oui, parce que un n'était pas suffisant, que Ryanair va ouvrir des bases en France, à Marseille et à Bordeaux. Ryanair n'avait plus de base d'exploitation en France.
Ouais, ils étaient partis, ils avaient moins de subventions, donc ils étaient partis.
Ouais, et puis... Alors, il faut...
Ils sont subventionnés, ces gens-là, alors, pour s'installer.
Alors, c'est ça, justement, aussi, l'affaire. Alors, à Marseille, il faut se souvenir qu'il y avait une base qui avait été créée en 2007, qui avait fermé en 2010. Pourquoi ? Parce qu'en 2010, Ryanair était accusé de travail dissimulé, puisque, justement, c'était des contrats qui n'étaient pas français. Condamné en 2014. Là, on a appris, il n'y a pas très longtemps, hein, que la Cour de cassation a annulé la condamnation de Ryanair, mais il va y avoir bientôt un nouveau procès. Donc... Rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour que Ryanair soit bien condamné. Donc là, à Marseille, le personnel navigant avait des contrats de droit irlandais. Du coup, ne payait pas de charges en France. Bon, assez classiquement. Une base, c'est quoi ? D'abord, stratégiquement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'avoir des avions en fixe à un endroit qui vont pouvoir partir le matin avec les costumes cravates et les tailleurs pour les emmener dans un endroit et les ramener le soir. Donc, c'est du marché. Hein, c'est pratique, c'est quand même intéressant. Et puis le deuxième endroit, c'est Bordeaux. Bordeaux, la ville qui se rêve comme le nouveau centre de la France, hein, avec son TGV, son machin et son truc. Donc on sent qu'à Bordeaux, il y a une volonté d'accueillir Ryanair. En plus, Ryanair annonce la création de 60 nouveaux emplois directs, pilotes et personnel de cabine. d'ici avril 2019, et l'augmentation de lignes et la création de lignes. Donc ça veut dire que pour Bordeaux, qui se veut le nouveau centre de France, bah, c'est bien parce que ça met en avant finalement la possibilité de pouvoir aller facilement à Bordeaux. Donc là, on sent qu'il y a un coup politique qui est bien évidemment joué. Alors, derrière ça, Ryanair annonce deux nouvelles bases qui seront annoncées pour après l'hiver 2019. On ne sait pas encore où Ryanair va poser ses fesses, mais enfin, j'imagine qu'on le saura bientôt. Ryanair a promis des contrats français pour ses navigants, en voulant respecter les règles que, bah oui, parce que bah, quand tu as une base, c'est-à-dire que ton personnel, il se lève le matin, il monte dans le petit avion, tu vois. Et puis normalement, il fait l'aller-retour et il revient se coucher. Et ben, Ryanair a promis de respecter les règles.
C'est sympa, hein, de promettre de respecter les règles.
Ouais, monsieur O'Leary, en fait, c'est quelqu'un de vachement bien. Qu'il a le cœur sur la main, lui aussi.
C'est ça, on verra dans 6 mois.
Hein. Ouais, on en rediscutera, puis on en rediscutera de savoir aussi où en sont les conditions de travail de ceux et celles qui sont demain en grève.
Il est 20h04.
Et juste, je finis sur Air France parce qu'on a rigolé ce matin.
T'as rigolé, toi ?
Ouais, ce matin. Ce matin, il y a un truc qui est paru sur le site sur le site internet du Financial Times.
Parce que toi, tu lis le site internet du Financial Times.
Non, mais je l'ai lu par d'autres biais économiques. Ah ouais. Voilà, je te le dis. Du coup, j'ai été voir. Ben Smith a été cité par le Financial Times en expliquant que l'État français allait céder sa participation de plus de 14% dans Air France KLM.
Oh,
sauf que ben Monsieur Bruno Le Maire, notre président de l'économie, notre ministre de l'économie, a dit mais non, c'est pas vrai. Donc Monsieur Ben Smith est le nouveau patron d'Air France KLM, je vous rappelle. La France a une participation dans Air France. Et Monsieur Le Maire a expliqué que non, c'est pas du tout ce qu'on a décidé a priori. Donc soit Monsieur Ben Smith a vendu la mèche trop tôt, ouais, qu'il aurait pas dû.
Ça ressemble à ça quand même.
Soit en fait il y va au forcing parce qu'il a.
Ou il fait pression.
Ouais. Il va pression. C'est le nouveau patron. Il vient d'arriver. Je vous rappelle qu'il a des super salaires, indemnités et tout ça. Enfin, on en a parlé il y a pas très longtemps. Il a expliqué qu'il voulait une industrie puissante. Je le cite, avec des retombées positive, notamment sur la création d'emplois, et qui veut rivaliser avec la concurrence. Alors là, on sent aussi qu'il va un petit peu attaquer l'intersyndicale avec qui il a rendez-vous le 1er octobre prochain sur les augmentations de salaire réclamées. Il a donné aussi une interview au Paris Match. Donc, Monsieur Ben Smith est dans la presse. Il se fait son trou. Il essaye de se faire une image parce qu'en plus, pour aller à Paris Match, si tu veux, c'est quand même aussi un angle d'attaque assez particulier. J'ai pas eu le temps de le lire celui-là, mais je vais m'y coller dès que je rentre. C'est paru aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de le lire, excusez-moi. Voilà.
Bon, 20h06 à la pendule de la plus rebelle des radios. Comme vous avez pu entendre, nous avons un peu dépassé car l'émission Papillon n'est pas de retour.
Non, c'était la petite cuillère qui devait revenir cette semaine.
Alors moi j'ai cru comprendre qu'ils revenaient la semaine prochaine. Nous verrons s'ils sont là à l'antenne.
J'espère.
Papillon ayant arrêté malheureusement.
Pour l'instant, ouais, voilà. Ça n'a pas de...
Donc, on va vous laisser en compagnie des bandes continues, hein, de toute façon. Prochain Canyon Info demain 19h. Prochaine émission, je pense, à 21h sur la plus rebelle des radios.
Et ben on vous souhaite une très bonne soirée, à bientôt, ciao ciao.
Bye bye.
C'est qui, je suis un grand comme les grands. J'ai des gants pour tirer partout, on se détend. J'ai quelques copains, j'ai des temps, je peux faire le requin. J'aime les filles sur ma vie, celle des comptines de magie, celle du soir, même la voisine, je les préfère à celle des films. Au réveil, on se dit bonne nuit, on se fait un gobelet au plaisir, on joue.
On va recouper cette musique horrible et on va...
Je n'ai pas les mêmes goûts que tout le monde, disons.
Ah, c'est atroce. J'ai l'impression d'être sur une radio commerciale. Oui, on a oublié de faire l'agenda.
Eh ouais.
Et il faut toujours faire l'agenda. Surtout qu'il y a une mobilisation demain pour essayer de garder le droit à l'IVG, hein, puisque ces droits-là, comme beaucoup de droits d'ailleurs, peuvent tomber à tout moment. Donc il y a un rassemblement devant l'Opéra de Lyon, entre
l'Opéra de Lyon,
la Place de la Comédie, entre l'Opéra de Lyon et la Mairie Centrale, à 18h, pour dire qu'il faut encore et toujours lutter pour le droit à l'IVG. Voilà, j'avais oublié ça, on vous relaisse avec cette musique.
Ciao, ciao.
Bye.